Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels.
Gilles Bossiger, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va, en pleine université d'été, donc à fond.
Eh ben, je te remercie déjà de nous recevoir sur un de tes stands. Et on va prendre le moment pour parler de toi, de voir justement sur comment tu as fait pour devenir expert comptable. On va voir la partie passé, ton présent et parler un peu de ton futur. Est-ce que tu es d'accord ?
Allez, je suis partant.
Bon, juste avant, j'ai fait un petit point sur ChatGPT où je lui ai demandé en fait qu'on te présente. Bon, tu me dis s'il n'a pas fait trop de bêtises. Hein.
Allez.
Alors, tu es expert comptable et commissaire au compte. Ta position actuelle, c'est associé du cabinet Stangelin et secrétaire de la CRCC Paris. Éducation, diplômé de l'OREP de Clermont-Ferrand, ça vient de chez moi ça. Gilles a fondé son cabinet à l'âge de 26 ans, très jeune. En 5 ans, son cabinet a connu une croissance significative, comptant désormais 4 associés, 45 collaborateurs et 600 clients. Il est engagé dans la profession comptable à travers divers rôles, y compris son poste de secrétaire à la CRC Paris et président de l'association Ensemble pour Agir.
Écoute, tout est juste, bravo.
Ah, tu vois, t'es déjà reconnu, et moi c'est un truc qui m'a, pas choqué, mais qui m'a surpris, 26 ans, t'as pas chômé ?
Non, 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 c'est vrai que j'ai fait mon cursus DCG, DSCG DEC juste après le bac, et j'ai pas redoublé, j'ai pas non plus accéléré ni sauté de classe, mais voilà, j'ai été diplômé à 26 ans, et dès que j'ai eu mon DEC, ben, je me suis installé, je me suis inscrit immédiatement. J'ai pas attendu.
Bah, bravo. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est à quel moment de ta vie tu t'es dit, tiens, bah, Gilles, il va faire expert comptable. Quand t'es 5-6 ans, en regardant la télé, ou plutôt on y a après le bac, ou souvent on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ?
Bah, alors, écoute, moi, je suis issu d'une famille qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas du tout de chef d'entreprise dans ma famille, même. Je suis issu d'une famille qui est très religieuse. Mes parents étaient pasteurs. Mes frères sont pasteurs, d'ailleurs. Le choix de devenir expert comptable, je l'ai fait au moment du bac, donc en terminale, où bah, il y avait la problématique d'orientation. Comme beaucoup de jeunes, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc, à l'époque, c'était en 2006, j'ai fait un test d'orientation. Voilà, et ça existait déjà à l'époque. Alors, c'était moins digital, hein, c'était un peu plus manuel et papier. Donc, j'ai fait un test d'orientation, test de personnalité. Et les résultats ont été que j'étais fait pour devenir expert comptable. Voilà. Donc, j'ai appris que j'étais fait pour devenir expert comptable, mais je ne savais même pas ce qu'était un expert comptable. Donc, je me souviens que je suis allé à la librairie acheter un livre sur le métier d'expert comptable. Alors, je suis incapable de dire qui avait publié ça. Est-ce que c'était l'ordre voilà, mais c'était un petit bouquin, le métier d'expert comptable. J'ai lu le livre. J'ai vraiment découvert ce métier que je ne connaissais même pas de nom. Et ça m'a intéressé. Donc, je me suis lancé dans le DCG juste après le bac. Et pour le coup, ça a été une révélation. C'est-à-dire que vraiment, dès les premiers mois, les premières semaines de cours, je me suis dit que c'était des matières qui m'intéressaient. La compta, la finance, le droit, parce qu'il y a beaucoup de droit dans ces cursus. Et donc, je me suis dit que j'avais fait le bon choix, la bonne orientation. Et donc, finalement, le fait d'être expert comptable, c'est le fruit d'un test d'orientation, d'un test psychologique.
Tu venais de la filière bac scientifique, économique ?
J'étais en bac technologique. Alors, à l'époque, ça s'appelait STG, je ne sais pas comment ça s'appelait.
Moi, c'était STT à l'époque, tu vois.
Donc, non, c'est un bac, j'étais issu d'un bac techno. Voilà, donc, je pouvais, l'alternative, c'était d'aller en école de commerce, puisqu'il y avait des prépas adaptés au bac techno pour aller en école de commerce. Mais ça ne m'attirait pas spécialement, voilà. J'ai choisi de faire un DCG et ça a été un bon choix.
T'as pas eu des doutes en disant, bon, tiens, je rentre dans cette filière, mais c'est quand même dur quand même. Hein. La partie DSCG, après il faut faire jusqu'au DEC. T'as pas eu des moments en disant, je me suis sur un test, il faut que je fasse ce métier, allez, on fait confiance.
Je me suis surtout dit que ça allait être long, parce qu'on te rend des études, 8 ans d'études, tu te dis, ouais. Voilà, c'est long, quand t'es jeune, plein d'énergie, tu n'as qu'une envie, c'est rentrer dans le monde actif et surtout de quitter l'école. Donc c'est la durée des études qui en fait fait peur. Ceci dit, assez vite, quand tu analyses, tu te rends compte que c'est plutôt 5 ans d'études plus 3 ans d'exercice, donc 5 ans d'études, ça reste un peu moins effrayant. Mais c'est plus la durée qui m'a inquiété que le fait de me lancer dans l'inconnu, puisque, encore une fois, assez vite, je me suis retrouvé sur vraiment bien adapté, bien à l'aise sur ces sujets. Donc non, c'est la durée plus que la matière en elle-même qui a pu m'effrayer.
Est-ce que tu peux me raconter ton parcours en tant que collaborateur, on va dire ces 300 heures de stage, jusqu'à avoir le Sésame Deck et devenir expert?
Oui, alors j'ai même commencé à travailler en 2010, juste après mon DCG, puisque j'ai fait mon DSCG en alternance. Donc j'étais apprenti dans un cabinet comptable à Paris, d'ailleurs, un cabinet d'une trentaine de personnes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je suis arrivé à Paris, puisque moi je suis originaire des Cévennes, donc je suis monté faire mon DSCG en alternance à Paris. J'ai fait 2 années d'alternance hein, pour les 2 années de DSCG dans ce fameux cabinet où j'ai eu une expérience professionnelle hyper intéressante. On faisait du commissariat aux comptes, de l'expertise. On avait plutôt des beaux dossiers. C'était une très belle expérience. Et à l'issue de ces 2 années d'apprentissage, ils m'ont proposé de continuer avec eux, donc en CDI, et donc pour faire mon stage d'expertise comptable chez eux. Donc j'ai fait 3 années supplémentaires dans ce cabinet. Où je suis devenu chef de mission et même la dernière année chef de bureau. Ils m'ont confié une petite équipe de 5 personnes. Et donc, ça a été évidemment une ascension très intéressante, une progression qui m'a permis de voir des aspects, notamment managérial, de gestion de cabinet, et d'avoir une expérience finalement de presque de patron assez jeune, ce qui d'ailleurs m'a permis de me lancer aussi vite, hein, à 26 ans, puisque j'avais déjà vu un peu toutes les facettes du métier. Donc finalement, avant de créer cet engin, j'ai qu'une seule expérience en cabinet, une expérience de 5 ans, 3 ans de stage plus de 2 ans d'alternance au sein du même cabinet, ce fameux cabinet parisien d'une trentaine de personnes.
Comment tu as fait pour gérer écriture de mémoire, management du cabinet et puis ta vie privée, quoi?
Déjà, j'étais célibataire. J'avais pas d'enfant. C'était déjà effectivement un avantage très, très, très important pour écrire son mémoire. Et puis j'étais vraiment jeune, donc j'avais l'énergie pour arriver à tout concilier. Et donc, quand j'ai écrit mon mémoire, j'avais 24-25 ans, j'y passais des soirées entières, ce qui est évidemment beaucoup plus facile, encore une fois, quand t'as pas d'enfant à gérer. Écoute, c'était beaucoup d'heures, hein, c'est ça, y a malheureusement pas de secret. Pour avoir son deck, il faut bosser, c'est beaucoup de sacrifices. Je l'ai fait, j'ai travaillé jusque tard pour finir ce mémoire, le déposer dans les délais, puis aller le présenter au fameux SIEC à Arcueil. Puis il faut aussi préparer les écrits, parce que même si le mémoire est l'étape la plus compliquée, il faut quand même préparer les écrits. Donc c'est pareil, j'ai suivi des formations qui étaient données par des écoles parisiennes pour préparer ces écrits. Je suis parfaitement conscient que plus t'es jeune, plus c'est facile finalement d'obtenir son deck, parce que c'est vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, et l'absence de famille facilite quand même grandement ta capacité à réussir ton deck.
T'as jamais eu un petit moment de doute ?
Non, je sais pas. Écoute, non, parce que encore une fois, j'ai eu un cursus très linéaire. Voilà, j'ai fait mes 8 ans et année après année, je validais mes UE au DCG, mes UE au DSCG. J'ai jamais eu d'échec, j'ai jamais raté une UE. Après, il y a eu le stage d'expertise comptable. Je suis arrivé au DEC, je l'ai passé. J'ai préparé année après année mes différentes épreuves, mes différentes mes mémoires, mes écrits. J'ai jamais eu de doute. J'ai jamais eu de douter réussir. Et j'ai jamais eu de doute sur le fait que c'était un métier qui pouvait finalement ne pas me plaire. Je me suis toujours épanoui au travail. J'ai eu la chance de ne pas avoir de doute pendant ces 5 années.
J'ai l'impression que tu t'es jamais posé cette question ou dit que tu pouvais échouer. Alors, peut-être que tu avais bien préparé en te donnant le temps et en te disant « il faut faire ça, pour que je puisse atteindre mon objectif ».
Oui, je crois aussi que c'est presque familial. C'est-à-dire que mon père est ingénieur, mes frères sont ingénieurs, donc j'ai appris à travailler. De toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait que je travaille, à être rigoureux. Mon père a également été, à un moment donné, enseignant. Donc, j'ai un père qui a été enseignant, donc ça aussi, ça aide à structurer son travail scolaire. J'ai été un peu formaté à préparer les diplômes, à les réussir. Et ça, c'est un héritage familial dont j'ai largement bénéficié.
Donc, tu arrives d'expert comptable. Et là, maintenant, comment on change la casquette de collaborateur à maintenant expert comptable ?
Il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que quand tu as ton deck, finalement, tout change. Parce que ça y est, tu peux t'inscrire à l'ordre. Tu peux créer ton cabinet, tu peux signer des attestations, des rapports, t'engages ta responsabilité, mais finalement, t'es la même personne qu'avant, tu vois, t'es pas devenu beaucoup plus intelligent du jour au lendemain parce que t'as eu ton deck. Donc, il est vrai que j'étais encore une fois assez jeune, j'avais 26 ans, je me suis lancé sans aucune hésitation, voilà, dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, comment on change de casquette? Ça dépend déjà de ses envies, de ses ambitions. Moi, c'est vrai que ça me démangeait. Voilà, ça me démangeait de me lancer. Honnêtement, j'y pensais beaucoup les deux dernières années de stage. J'attendais presque que ça, finalement, que d'avoir le deck pour débloquer la situation. Être chef d'entreprise, être expert comptable à son compte, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc, à un moment donné, il faut foncer. Voilà, il ne faut pas se poser trop de questions. Il ne faut pas avoir trop peur. Il faut savoir prendre des risques. Évidemment, c'est plus facile à dire quand t'as 26 ans, pas de famille, pas d'emprunt sur le dos. Mais voilà, il faut pas se poser trop de questions. C'est vrai que les experts comptables, on adore poser plein de questions, bien cadrer ses tableaux Excel avant de se lancer. Mon associé de l'époque et moi-même, on n'a pas hésité une seconde. On s'est lancé, on y est allé. Ça a fonctionné, ça aurait pu ne pas fonctionner, évidemment, mais ça a fonctionné. Et finalement, c'est presque... l'insouciance qui nous a fait réussir parce que à aucun moment on a douté, on s'est dit que ça pouvait mal se passer et effectivement pour le coup ça s'est bien passé.
Ouais, c'est un pari sur l'avenir. Tu aurais pu aussi rester au cabinet en t'associant en disant bon c'est peut-être plus confortable.
Ouais, tout à fait. Mes patrons de l'époque m'avaient proposé d'ailleurs de m'associer, ce qui m'avait d'ailleurs intéressé. J'avais réfléchi avant de décliner la proposition. Alors j'ai décliné la proposition pourquoi? Parce que je me voyais pas devenir associé avec mes anciens patrons qui m'avaient connu comme apprenti, mais aussi avec mes collègues qui m'avaient connu comme un petit bébé apprenti. Voilà, je me voyais pas. J'avais peur de cette transition. Voilà. À la limite, c'était plus simple de repartir de zéro, d'aller recruter mes propres collaborateurs à côté, de racheter des cabinets puisqu'on a fait beaucoup de rachats de cabinets. Je me suis dit que ça allait être plus simple d'arriver avec une page blanche pour m'imposer. En devenant associé de ce cabinet dans lequel j'avais fait mes 5 premières années d'expérience professionnelle, je pense que quelque part, je serais resté un peu salarié. Et non, j'avais vraiment ce goût de l'entrepreneuriat, cette volonté d'entreprendre, de prendre des risques, d'être mon patron, de décider de prendre moi-même les décisions et de ne pas être coincé comme étant le numéro 3 d'un cabinet. Voilà, donc j'ai décliné la proposition, on s'est quitté en plutôt bon terme avec mes anciens patrons, même si évidemment ils étaient déçus, je peux l'entendre. Mais voilà, c'était finalement le meilleur moyen de créer son propre cabinet, d'être son propre patron, de repartir de zéro.
Alors, tu as pris ton envol et jusqu'à aujourd'hui, donc tu as monté ta société. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? Est-ce que c'était simple? Est-ce que ça a tout le temps été linéaire?
Alors ça a été plutôt exponentiel, plus que linéaire. On a créé le cabinet en 2016 avec mon associé, mon premier associé, puisque aujourd'hui nous sommes quatre, donc à l'origine nous étions deux. On s'est vraiment lancé sans aucune stratégie. Et très vite, on a eu une opportunité, je dirais accidentelle, parce qu'elle n'était pas du tout recherchée, de racheter un cabinet. C'est-à-dire au bout de 2 mois, on a eu une proposition, un confrère est venu nous voir en nous disant je vends mon cabinet, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Et on a réfléchi assez vite et donc on a acheté ce premier cabinet. Au bout de quelques mois d'existence, on a eu nos premiers collaborateurs, puisqu'on a récupéré les collaborateurs, notre premier portefeuille de clientèle. Et ça nous a vraiment donné le goût de l'acquisition de cabinet. Alors, qui encore une fois était presque accidentel parce qu'on n'était même pas en recherche. À l'issue de ce premier achat, on a décidé de faire une levée de fonds avec mon associé. Donc on a levé 1 million d'euros auprès d'investisseurs privés, de business angels. Hein, et ça nous a permis, en l'espace de moins d'un an, d'acheter 3 autres cabinets. D'accord ? Donc sur nos 18 premiers mois d'existence, on a acheté 4 cabinets. Ça nous a permis d'atteindre très vite une taille un peu critique. On s'est retrouvé très vite en fait à gérer une vingtaine de collaborateurs, un chiffre d'affaires qui du coup dépassait les 2 millions d'euros en l'espace de 18 mois. Bon, évidemment, une dette financière certaine aussi, puisqu'on ne vous les a pas donnés. Et donc, on a eu ce démarrage extrêmement violent. Voilà, et donc... Et donc, c'était une période alors que j'ai adoré. Je ne sais pas si aujourd'hui, à mon âge, alors je n'ai que 34 ans, mais bon, maintenant, je suis père de famille. Voilà, je ne sais pas si j'arriverai à faire ce qu'on a fait à l'époque de bosser H24, hein, clairement, de structurer un cabinet, de réunir des équipes différentes. Voilà, je ne sais pas si j'aurai cette énergie, mais à l'époque, on l'a eu. On a bossé comme des fous pour y arriver. Et en l'espace de 18 mois, on a eu cette chance de se retrouver avec un cabinet qui était structuré avec un pôle social, une juriste. Voilà, on était capable de répondre à l'ensemble des besoins de production avec des collaborateurs qui étaient déjà un peu spécialisés. Donc ça a été notre démarrage, très violent, je dirais. Et à partir de 2018, on a eu une croissance là, plutôt linéaire pour arriver aujourd'hui, comme tu le disais en introduction, à un cabinet où nous sommes 4 associés et 45 collaborateurs. On fait à peu près 6 millions de chiffres d'affaires là, sur l'année 2024. Là, ça a été plus linéaire. Alors, avec des rachats, on a encore acheté d'autres cabinets. Alors, on n'en a pas racheté 4 par an parce que là, franchement, ça aurait été impossible. Mais on en rachète un de temps en temps. Mais aussi une croissance interne, puisque c'est vrai qu'à partir du moment où on a eu un cabinet très structuré, on a pu faire des offres et on est devenu attractif pour pas mal d'entrepreneurs. Donc, on a une croissance régulière alimentée à la fois par les prospects qui arrivent de même, le bouche à oreille, et puis des acquisitions régulières de cabinets. Donc un démarrage violent au début, très puissant, très, très fort, avec cette fameuse levée de fonds, et puis depuis une croissance de 10-15% par an jusqu'à aujourd'hui.
Je voudrais revenir, si tu le veux bien, sur la partie en fait, démarrage violent. J'ai l'impression, tu me dis, c'est plutôt le manager que tu as dû mettre en avant que vraiment le technicien expert comptable, parce que là tu disais... Déjà, il va falloir que je manage des gens, il va falloir que je les réhabitue à ma façon de voir, que je les fasse cohabiter avec les 3 autres cabinets. Waouh !
Bien sûr. De toute façon, quand tu rachètes un cabinet, ton problème numéro 1, c'est de préserver le fonds de commerce que tu rachètes. Et le fonds de commerce, en vérité, c'est presque plus les collaborateurs que les clients. C'est-à-dire que quand tu rachètes une équipe, un cabinet dans lequel il y a une équipe, c'est ces collaborateurs-là qui ont les clients au quotidien, en relationnel, soit téléphone, soit mail. Si les collaborateurs sont malheureux, si l'opération de rachat se passe mal, ça va se répercuter sur les clients. Ça, c'est naturel. Donc, évidemment, notre obsession, c'est quand on a fait ses premiers rachats, c'était de fédérer l'équipe autour de nous. Ce qui n'est pas évident, on avait 26 ans. Mon associé est même plus jeune que moi, il avait donc 25 ans. Donc, c'est pas évident du tout d'arriver dans des cabinets qui sont structurés, qui ont parfois 10, 20 ans d'ancienneté, et de dire on est des petits jeunes, on débarque, on va vous expliquer comment nous on voit les choses. Donc ça a été notre enjeu numéro 1. Voilà. Alors après, il ne faut pas négliger un point qui est vraiment essentiel sur la partie technique, c'est que la technicité que tu peux apporter à tes collaborateurs et donc à tes clients, c'est ce qui te rend légitime. C'est-à-dire que des collaborateurs qui sont parfois managers, chefs de mission, qui ont des DSCG, parfois le DEC, alors on n'a jamais eu le cas, mais tu peux parfois même racheter des cabinets où il y a des diplômés. Pour qu'ils te respectent, il faut aussi qu'ils se disent « il est au niveau voilà, ». Quand je lui pose une question, c'est du tac au tac, il sait traiter les sujets. Et dans notre profession, j'en suis convaincu que la technicité que nous avons nous donne une légitimité en tant que chef d'entreprise, notamment auprès des collaborateurs, mais aussi auprès des clients. Dans mon expérience de salarié, ce qui a permis mon ascension à l'âge que j'avais, c'est-à-dire moins de 25 ans, c'était que j'avais plutôt un bon niveau technique. J'espère ne pas l'avoir trop perdu aujourd'hui, même si j'exerce un petit peu moins le métier au quotidien. Mais j'avais une très bonne technicité, ce qui fait que ça crée du respect et donc ça te permet de t'imposer comme manager. Donc la technicité, elle est quand même essentielle. Elle est essentielle. Puis évidemment, tu le disais, le management est important. Il ne faut pas être trop violent dans les changements. Quand tu rachètes des cabinets, tu ne dois pas arriver, changer les logiciels, tout modifier. Voilà, il faut respecter ce qui existe. Et donc, on a réussi à bien jongler entre ces différents aspects. On n'a pas perdu de collaborateurs, on n'a presque pas perdu de clients. Voilà, on a réussi à avoir à chaque fois une certaine stabilité. Mais c'est un projet. Voilà, il faut s'y prendre, il faut respecter les gens, il faut s'y prendre et être patient. Et puis finalement, les choses évoluent naturellement. Voilà, les choses évoluent naturellement. Donc oui, c'est un job de manager quand tu rachètes des cabinets, tu te retrouves avec 20 collaborateurs du jour au lendemain. Mais la technicité, elle est quand même essentielle. Tu peux pas, tu peux pas ne pas assurer devant tes collaborateurs, parce que si tu sais jamais répondre aux questions de fiscalité, de sociale, ils vont pas te respecter.
Et cette fougue de la jeunesse, ça t'a pas dit « on change tout et on fait ma méthode » ? T'as réussi à la contenir ?
Ouais, alors, on a eu des petites pulsions hein, quand même, hein, que sur les derniers achats, nous n'avons plus. Mais c'est vrai qu'on était tellement excités qu'on voulait tout changer, le nom du cabinet, les logiciels. Mais on s'est très vite calmé et on a toujours à peu près appliqué la même stratégie sur les acquisitions qu'on a fait. C'est qu'on ne touche rien pendant un an. C'est-à-dire qu'on les laisse sur leur marque, la marque de leur cabinet, on les laisse sur leur logiciel, on les laisse sur leur méthode, et c'est nous qui nous adaptons. Et si tu veux, on laisse les choses se faire, et puis à force de réunir les équipes, qu'elles commencent à prendre l'habitude de travailler ensemble, eh ben, les méthodes, elles s'harmonisent d'elles-mêmes. Tu vois, et donc, quand au bout d'un an, un an et demi, on a dit, bon, on va peut-être essayer d'avoir le même logiciel, parce qu'on s'est retrouvé quand même avec quatre logiciels différents. On a acheté quatre cabinets, quatre logiciels différents, donc c'était presque statistiquement impossible, mais c'est arrivé. On a attendu, et puis quand il a fallu choisir un logiciel, honnêtement, ça s'est fait naturellement. Le choix s'est fait naturellement, parce que les équipes avaient l'habitude de bosser ensemble, avaient harmonisé un petit peu leur façon de voir les choses, et voilà. Donc il faut être patient. Moi, j'accompagne souvent des jeunes confrères et consoeurs qui rachètent des cabinets, puisque j'ai un peu cette réputation d'être un acheteur compulsif de cabinets. Donc, souvent, les jeunes viennent me voir pour me demander des conseils, que je fais évidemment avec grand plaisir. Moi, je le dis, les opérations qui se passent mal, c'est celles où tu veux imposer de suite à tes clients, à tes nouveaux collaborateurs, une certaine vision, une certaine façon de faire, qui est peut-être la bonne, c'est pas le sujet, t'as sans doute raison. Mais il y a le fait d'avoir raison et le fait d'arriver à l'imposer aux autres.
Je trouve déjà que c'est pas mal occupant, mais tiens, tu t'es dit, je vais me mettre un peu en politique. Alors comment tu es passé d'expert comptable bien occupé à secrétaire de la CRCC Paris dans un premier temps ?
Alors en fait, quand je me suis inscrit à l'Ordre en 2016, c'était la campagne pour l'élection à l'Ordre des experts comptables. Et donc à ce moment-là, j'ai été comme tous les experts comptables, noyé de mails, noyé de communications des fameux syndicats, les deux fameux syndicats que je ne connaissais pas. Mais mes anciens patrons n'étaient pas du tout là-dedans. Enfin, ils étaient totalement en dehors de la politique. Et donc j'ai découvert ça. Je me suis intéressé au sujet et du coup, j'ai assisté à des interventions. J'ai lu pas mal de choses et j'ai découvert Laurent Benoudiz, qui était à cette époque candidat pour être président de l'Ordre de Paris. Donc je l'ai découvert et je suis tombé sous son charme. Il a un charisme fou et ça m'a vraiment, ça m'a stimulé. Je me suis dit, j'aimerais bien être aussi fort que lui, tu vois. Et parce qu'au-delà du fait que ce soit un garçon très charismatique et très talentueux politiquement, c'est un technicien hors pair. C'est un grand fiscaliste, un grand expert en gestion de patrimoine. Et donc, il arrivait à partager ça, cet enthousiasme. Et donc, dès mes premiers mois d'inscription à l'Ordre, je tombe en pleine campagne électorale, mon premier vote, voilà. D'ailleurs, je peux le dire, j'ai voté Benoudiz. Normalement, le vote est secret, mais j'ai voté Benoudiz à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à avoir un petit peu de temps, donc, après cette première vague de rachat, quand j'ai retrouvé un peu de temps, j'ai adhéré au syndicat dans lequel Laurent était à l'époque, donc ECF. Voilà, j'ai adhéré à ECF. Et j'ai commencé à aller aux réunions du syndicat ECF, dont le président de l'époque était Vincent Régnier. Et donc, de fil en aiguille, je me suis devenu de plus en plus actif au sein de ECF. On m'a demandé d'animer des choses, je l'ai fait. Et quand Vincent Régnier s'est présenté en 2020 pour être président de la compagnie des commissaires aux comptes, il m'a proposé d'être sur sa liste. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir et enthousiasme. Donc, on a gagné l'élection, mais en plus, du coup, il m'a alors proposé de devenir secrétaire de la CRCC, fonction que j'occupe donc depuis 2020.
Ça t'a pas fait peur ? Et derrière, la deuxième question, c'est pourquoi ? C'est quoi ton objectif ? C'est de partager, c'est d'aider les autres à... Vu que ça fonctionne bien, c'est que tu veux les aider aussi à fonctionner. Dis-moi un petit peu ton objectif de fond, si tu le veux bien.
Ouais, alors... Si tu veux, quand tu commences à mettre le doigt dans la politique, ça peut devenir assez addictif. Et c'est vrai qu'à Paris, on a la chance d'être un petit groupe, un noyau assez solide. On est tous devenus amis les uns les autres. Hein, et c'est vrai que du coup, ça fait pas peur. Tu vois, tu posais la question de est-ce que tu as eu peur? Non, parce qu'en fait, on est entre amis, on bosse ensemble, on n'est pas toujours d'accord, on peut s'engueuler, mais tu as un vrai projet avec tes amis pour la profession, et donc ça se fait vraiment naturellement, ça fait pas peur. Alors après, tu as posé une question qu'on me pose toujours, c'est pourquoi tu fais ça? Parce que c'est totalement bénévole. Enfin, je peux même vous dire que ça me coûte plutôt de l'argent, parce que on sent que pour un chien, on n'a pas beaucoup de caisses. Pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est beaucoup de temps. Je ne sais pas si on y reviendra, mais j'y consacre énormément de temps. C'est du temps qu'évidemment, soit tu ne consacres pas à ton cabinet, donc au développement commercial de ton cabinet, soit que tu ne consacres pas à ta famille. Entre-temps, voilà, j'ai une famille. Donc, c'est pourquoi tu fais ce sacrifice. Alors, je le dis, c'est totalement bénévole. Il n'y a pas d'intérêt business. Les clients, enfin, tu ne récupères pas des clients parce que tu es secrétaire de la compagnie des commissaires aux comptes. Hein. Je n'ai jamais eu un prospect qui m'a dit « je viens chez toi parce que tu es à la CRCC de Paris ». C'est pas
à savoir ça.
Ça, c'est zéro business. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui fait que je me suis laissé embarquer dans ce syndicat ECF, c'est qu'à force d'échanger avec des confrères, et en l'occurrence des confrères sans leur manquer de respect, plus seniors que moi, qui avaient quand même des cabinets plus importants que moi, plus d'ancienneté, plus de diversité aussi dans leur clientèle, dans leur mission, eh ben ça m'a beaucoup éclairé dans ma stratégie. C'est-à-dire que quand tu vois des cabinets qui ont réussi, qui ont mis en place certaines stratégies, et que tu as des confrères qui très naturellement t'expliquent comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, quelles approches ils ont avec leurs collaborateurs, quelles approches ils ont avec leurs clients, eh bien ça t'inspire. Et donc la réussite de Stangenin est aussi liée à l'engagement politique que j'ai eu, non pas que ça m'ait rapporté des clients, mais ça m'a sans doute apporté une stratégie. Voilà. Je me suis inspiré de ce que les camarades que j'ai rencontrés dans ce syndicat ont fait, et donc ça c'est une contribution qui est dur à chiffrer. C'est très dur de te dire voilà combien ça a rapporté au cabinet. En business, zéro, mais bon, forcément, en termes de stratégie, c'est ce qui a permis le développement du cabinet. Donc, indirectement, ça rapporte. Et d'ailleurs, j'en parle régulièrement avec mes associés, parce qu'il est aussi clair que le temps que je passe pas au cabinet, c'est du travail de plus pour mes trois associés. Ils sont parfaitement en phase avec moi, ils sont parfaitement d'accord pour que je sois dans ces engagements politiques, parce qu'ils savent que ça a un intérêt, on va dire, indirect pour le cabinet. Voilà, donc moi j'y vois cet intérêt, professionnel, voilà, stimuler intellectuellement, être un peu dans l'innovation, voir des choses, être un peu en avance sur les informations, sur les nouveautés de la profession. Donc ça je vois. Et puis il y a aussi un intérêt personnel. C'est vrai que moi, comme je le disais en introduction, je suis issu d'une famille qui est dans le milieu associatif, hein, ils étaient religieux. Enfin, ils sont toujours religieux. Et donc, j'ai toujours eu un peu ce goût, même si moi-même je ne suis pas religieux, mais j'ai toujours eu un peu ce goût de l'engagement associatif, de s'investir, de créer des choses. C'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé dans la religion, contrairement à mes frères. Je l'ai trouvé dans la politique, dans le syndicalisme, au sein de notre profession. J'y ai vraiment pris goût. Et c'est vrai que là, je retrouve peut-être aussi mon héritage familial de cet engagement, non lucratif qu'on peut avoir au sein des instances.
J'ai une petite question. Tu l'as pris tout seul, cette décision, ou tu l'as pris en prenant en compte l'avis de tes associés et de ta famille ?
Alors, je l'ai prise tout seul, clairement, mais plus parce qu'en fait, je me suis laissé embarquer. Tu vois, tu débarques, tu vas à une réunion du syndicat, et puis la fois d'après on te demande quelque chose, tu sais, c'est petite marche par petite marche, tu vois pas le truc venir. Bon, et c'est vrai que notamment avant de prendre la présidence de Ensemble pour Agir, on en a discuté avec mes associés, parce que ça commençait à alourdir fortement mon agenda, et il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion. C'est vrai que la situation était déjà un peu de fait instaurée. Mon engagement était déjà très fort. Mais on a quand même mis les choses à plat, on s'est dit les choses. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde est aligné. Et si mes associés commençaient à considérer que ce serait trop, il faudrait qu'on en discute. Voilà. Vis-à-vis de ma femme, c'est plus simple, parce que je l'ai connue à un moment où j'étais déjà très engagé. Donc elle était déjà au courant. Voilà. Donc elle ne pouvait plus revenir sur ce qui était fait. Après, je fais en sorte quand même de préserver ma vie familiale. tu sais très bien, si tu veux assister à tous les événements de l'ordre, de la compagnie, du CJEC, tu sors tous les soirs. Tu rentres tous les soirs à 2h parce qu'il y a des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, bah, moi, je fais en sorte d'être chez moi quand même régulièrement le soir, de voir mes enfants. Et donc, voilà, l'équilibre est aussi tenu parce qu'il faut savoir faire un effort et pas se laisser corps et âme dans la politique. Parce que oui, si tu te mets à fond dans la politique, c'est sûr que tu n'as plus de vie de famille et que tu n'es plus au cabinet. Voilà. Donc, l'agrément que j'ai pu avoir, que j'ai de ma femme et de mes associés, il est aussi lié au fait que je continue à bosser quand même au cabinet, je continue à ramener un peu de chiffre d'affaires et aussi au fait que je suis encore à la maison, je m'occupe de mes enfants, dès que je peux, je suis avec eux. Voilà, donc j'ai un agrément, mais parce que je fais aussi en sorte de l'avoir et faire en sorte que cet équilibre se tienne.
Tu me l'as dit tout à l'heure, tu as 34 ans, mais dans ta tête, tu as une richesse, une expérience, je pense, beaucoup plus élevée. Est-ce que ça vient d'événements clés que tu as eu, peut-être aussi de mentors qui t'ont aidé dans ton parcours?
Ouais, j'ai dans l'expérience de salarié que j'ai eue, encore une fois, j'étais dans un cabinet de petite taille, mais plutôt avec des beaux dossiers. Donc, j'avais face à moi des entrepreneurs qui étaient plutôt en réussite. Moi, je découvrais vraiment ce milieu de l'entreprise parce que, encore une fois, ma famille n'était pas du tout issue de ce milieu. Et donc, j'ai été inspiré par, j'avais pas des mentors, mais des réussites que j'ai vues, et notamment un jeune entrepreneur qui devait avoir, qui a toujours du coup 3-4 ans de plus que moi, que j'ai accompagné dans le lancement de son entreprise et qui a hyper réussi. Et je me suis dit, mais mince, en fait, à 26 ans, 27 ans, 28 ans, tu peux réussir à devenir chef d'entreprise, à fédérer les salariés autour de toi, à avoir des clients. Et même si ce n'était pas du tout dans le milieu de l'expertise comptable, il était dans un secteur autre, tertiaire, industriel, pardon, je me suis dit, c'est possible. Si tu t'en donnes les moyens, à 25 ans, 26 ans, 27 ans, tu peux réussir à monter une entreprise, à être chef d'entreprise. L'âge n'est pas rédhibitoire. Donc ça a été pour moi un premier modèle, c'est ce jeune entrepreneur avec qui je suis toujours en contact, même si je ne suis plus son expert comptable. Il a été pour moi vraiment très inspirant parce que il m'a montré que le chemin était ouvert, y compris aux jeunes. Après, dans la profession, j'ai professionnellement, on va dire, deux mentors. C'est Laurent Benoudi, ce que j'ai cité, et qui, pour le coup, m'a toujours beaucoup partagé de sa riche expérience. Alors lui, en plus, il est fils d'expert comptable, donc c'est une expérience extrêmement, un héritage extrêmement, extrêmement important. Et Serge Anouchian, qui également avait une très belle réussite. Hein. Il était associé d'un cabinet d'une centaine de personnes à Paris. Et ils ont toujours été hyper à l'écoute. Ils ont toujours partagé avec moi toutes leurs recettes. Ça a été deux mentors. Et je pense qu'aujourd'hui, Stangelin est un cabinet qui ressemble à leur cabinet parce qu'ils ont été vraiment, pour moi, des sources d'inspiration extrêmement fortes.
Si tu me dis que leur cabinet se ressemble, t'as prévu de les racheter ou pas?
Je pense qu'ils aimeraient bien, mais ils sont trop gros pour moi. Ils sont trop gros pour moi, donc non. Et puis bon, Laurent, il lui reste encore quelques belles années à faire quand même. Et puis bon, pour le coup, Serge est à la retraite, mais son cabinet a été repris. Il avait des associés plus jeunes, donc ils sont toujours là, et voilà. Donc non, on se rachète pas entre amis, on est très bien chacun chez soi.
Quels ont été les plus grands défis que tu as dû surmonter et qu'est-ce que ça t'a appris en fait, ça?
Enfin, il y a évidemment le défi de l'âge. C'est clair que quand tu arrives à 26 ans, 27 ans et que tu te retrouves avec des collaborateurs qui parfois ont 50 ans, 60 ans, c'est une difficulté, mais ça n'a pas été la plus dure. Je pense que ce qui a été le plus compliqué à gérer, c'est comme on a été des gros acheteurs, on a acheté au global peut-être 8 ou 9 cabinets, ça a été de gérer la relation avec le confrère cédant. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur les profils des experts comptables, déjà parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de profils hyper différents. Tu vois, je parlais tout à l'heure, je disais il faut gérer les clients, il faut gérer les collaborateurs, surtout les collaborateurs quand tu rachètes. J'aurais peut-être pu aussi dire il faut gérer le cédant. Parce que les experts comptables sont très attachés à leur cabinet. Et en région parisienne, c'est beaucoup de cabinets libéraux, donc des confrères qui ont lancé leur cabinet il y a parfois 20, 30 ans, qui sont souvent seuls, qui n'ont pas d'associés, donc c'est des petites structures. Et donc c'est très familial, c'est vraiment leur bébé. J'ai vraiment. Ça a été le plus dur à chaque fois parce qu'il a fallu s'adapter à chaque fois à chaque cédant. Et on y est globalement arrivé à chaque fois. Mais c'est arriver à couper le cordon sans les heurter, sans les blesser. Mais en même temps, tu es obligé de t'imposer parce que si tu continues à le laisser œuvrer dans le cabinet, t'as pas racheté. C'est pas possible. Donc, et puis, bon, c'est de toute façon pas sain pour la transition. Mais finalement, sur mes 8 années d'expérience chez Stangelin aujourd'hui, je pense que mes moments les plus durs, ça n'a pas été les clients, même si évidemment, bah, parfois il y a des échecs, tu perds des clients, tu es déçu. Ça n'a pas été les collaborateurs, même si, bah, comme tout le monde, on a du mal à recruter, on a des problèmes RH, voilà. Ça a été la gestion des confrères à qui on a racheté les cabinets, parce que, en fait, ce n'est pas une entreprise qu'on leur rachète, c'est vraiment leur bébé à chaque fois. Et donc, il y a des susceptibilités à gérer, et en même temps, tu dois t'imposer. Enfin, c'est un équilibre hyper touchy. Et ça a été ça. Voilà, le plus dur pour moi, c'est ça, sur ces 8 années, c'est de gérer cette relation avec le cédant des cabinets.
Le prochain achat que tu vas faire, ce sera de la même manière, le même process que le premier que tu as fait, ou maintenant avec l'espérance, tu gères différemment.
Alors, on a un process qui est assez arrêté, et donc oui, ce serait le même process. Comme je le disais, c'est en gros, on se laisse un an et demi où on touche à rien, c'est nous qui nous adaptons. Et puis après, bah, on vise l'harmonisation et la transition, et ça se passe plutôt bien. Ce qui a plutôt évolué dans notre stratégie, bon, déjà, c'est qu'on achète quand même moins, parce qu'on a une croissance interne qui est déjà très forte. Hein, on arrive à faire 10-15% de croissance interne, et honnêtement, il faut déjà gérer ça. Hein, c'est quand même déjà suffisamment lourd. Maintenant, ce qui pourrait évoluer, c'est plus la typologie des cabinets qu'on rachèterait. Aujourd'hui, on serait plus dans une logique de racheter des cabinets un peu structurés, c'est-à-dire un peu plus gros. Je ne m'amuserai plus à acheter des cabinets qui font 200-300 000 euros de chiffre d'affaires parce que on est devenu trop gros pour ces cabinets-là. C'est-à-dire que quand tu reprends une clientèle qui a été habituée à voir matin, midi et soir au téléphone le confrère qui s'occupe des payes, du juridique, et que tu les propulses du jour au lendemain dans un cabinet de 50 personnes où bah, tout est par service, tout est siloté, bah, ça, c'est trop violent pour les clients. Donc ça, c'est plus cette typologie de cabinet qu'on va aujourd'hui éviter, les trop petits cabinets. Autant quand nous on était petits, bah, c'était parfait parce qu'on était hyper dispo, on pouvait vraiment être à fond sur les clients. Autant aujourd'hui, bah, non, nous on a besoin que les clients rentrent dans un cadre. Or, c'est très très compliqué de faire passer un client d'un cadre où bah, l'expert comptable fait tout à un cadre hyper siloté comme c'est le cas chez Stangelin. Par ailleurs, on est aujourd'hui plus à la recherche de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dossiers qu'on regarde, on continue à regarder les dossiers qui passent sur le marché, on va plus chercher des cabinets où on va identifier des équipes, des collaborateurs, voire potentiellement des jeunes associés qui pourraient s'adosser à notre groupe. C'est ce que ça nous intéresse, de récupérer des compétences, de récupérer des équipes, de récupérer des personnes. Ça, pour nous, ce serait vraiment moteur, plus que de récupérer des portefeuilles clients, parce que honnêtement, trouver des clients, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Vraiment, ce qui est compliqué, c'est de structurer des équipes. Donc, notre recherche aujourd'hui se focalise plutôt sur des équipes, parfois de spécialistes. Par exemple, on s'intéresse à des métiers de consolidation, d'auditeur. Évidemment, la durabilité est un sujet pour nous. On se pose énormément de questions sur comment intégrer cette compétence durabilité. Donc, pour rien cacher, parce que je suis très transparent, on regarde des entreprises de conseil en durabilité. Donc, on n'est plus du tout dans l'expertise comptable. Il y a également des problématiques de transition digitale, de facture électronique. Enfin, il faut des compétences autres que les compétences comptables traditionnelles. Et donc, c'est plus là-dessus qu'on fait nos recherches. C'est vraiment quelles compétences on va pouvoir adosser au cabinet, quitte à faire rentrer des jeunes associés, enfin jeunes, moins jeunes d'ailleurs, mais des associés minoritaires, disons. C'est là-dessus qu'on se focalise. Et donc, après, si on trouve, on va avoir le même process. Voilà. Donc, ce qui a évolué, ce n'est pas le process, mais c'est plutôt la typologie des cibles.
Si tu veux bien, maintenant, on va aller sur le côté de présent. Là, on est deuxième semestre 2024. Et j'aimerais que tu me dises à quel moment de ta vie tu t'es dit, bah, waouh, là, je pense avoir professionnellement réussi. Est-ce que tu as une anecdote ou un petit souvenir là-dessus?
Je pense que un moment un peu fort qui commence à remonter, parce que ça devait être en 2018 ou 2019, c'est on avait organisé le repas de Noël du cabinet, donc encore une fois après toute cette série de rachats, Et donc, on devait avoir peut-être 25-30 collaborateurs à ce moment-là. Et donc, on organise le repas de Noël du cabinet j'ai été mandaté pour faire le mot auprès des collaborateurs. Et donc, je débarque et là, je me retrouve avec les 30 collaborateurs face à moi, ce que j'avais jamais vu vraiment. Enfin, j'avais jamais eu les 30 en même temps face à moi. Et en plus, plutôt des profils qui ont déjà des familles, parfois même des profils seniors. Et le fait de voir ces 30 personnes face à moi qui me regardent, qui m'écoutent, j'ai pas dit qu'ils étaient en train de m'aduler, hein, mais qui en tout cas me regardent et m'écoutent, et se disent, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là sur la stratégie du cabinet? Est-ce qu'il en a encore racheté un? Alors, et j'ai eu un, je me rappelle encore parce que j'ai eu un moment de blanc. Je me suis dit, mais waouh, là, les 30 personnes face à moi, plus leur famille, ils dépendent un peu de moi. Alors,
oui, une responsabilité un petit peu.
J'ai la responsabilité de ces gens-là. Et donc, j'avais moins de 30 ans. Et ça, ça m'avait marqué. Ça m'avait vraiment marqué. J'en avais d'ailleurs parlé à mes associés après. J'ai dit ça. J'ai eu, waouh, c'est peut-être la première fois où j'ai eu peur. Tu vois, la première fois où j'ai eu peur, où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, il y a prescription, je peux le dire. Hein, mais je me suis dit, mon Dieu, mais je ne suis pas tout seul quoi, dans le bateau. Et il y en a d'autres qui dépendent un peu de moi. Voilà. Donc ça a été, alors pas forcément une marque de réussite, mais une grosse étape psychologiquement. Et c'est peut-être même ce jour-là que je me suis dit, bon, il faut que je devienne vraiment patron, responsable. Peut-être que je sorte un peu moins le soir, que je travaille un peu plus, je sais pas. Mais ça a été, ouais, où c'est le poids des responsabilités sur les épaules. C'est ce jour-là que je l'ai senti en ayant les 30 personnes face à moi. Après, quand est-ce que je me suis dit que j'avais réussi? Bon, déjà, est-ce que j'ai réussi? Moi, je suis content de ce que j'ai. Voilà. C'est vrai que, bon, ben, moi, mon ego est toujours flatté quand des jeunes confrères viennent me voir, me demandent des conseils, alors que parfois on a le même âge. Alors, pas forcément la même expérience, évidemment, puisque j'ai 8 ans d'exercice, je ne suis plus un jeune expert comptable. C'est vrai que c'est toujours, tu te dis, bon, ben voilà, je vais lui apporter quelque chose, c'est valorisant. Parce que mon expérience a été plutôt une réussite. Voilà, je pense qu'on a réussi, même si on n'a pas tout fait bien, mais on a globalement réussi. Ben ça, c'est vrai que c'est toujours... ouais, tu sens un peu de reconnaissance de tes confrères, et ça, c'est valorisant. C'est valorisant.
Maintenant, il y a une question que je me pose. Donc, tu as le cabinet, tu as ton rôle de secrétaire à la CRCC, et tu t'occupes maintenant, tu es la présidence de l'Ensemble pour Agir. Comment tu arrives à caler tout ça dans une petite semaine de 35 heures?
Déjà, je dors pas beaucoup. Je suis pas un gros dormeur. Alors, je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, ça rend les journées un peu plus longues. Et donc, j'arrive à être au cabinet avant 7h du matin. Voilà. Alors, ça va dépendre de la soirée qu'il y a eu avant, mais entre 6 et 7 heures, je suis au cabinet. C'est vrai que ça a l'air de rien, mais en fait, le travail que tu fais avant que tes collaborateurs arrivent, avant que tes clients commencent à t'appeler, il est XXL. C'est là où tu es vraiment productif. Et donc, je fais une grosse partie de ma journée professionnelle, de ma journée Stangelin, en fait, avant 9h. Voilà. Et à partir de 9h, ma journée évolue. Effectivement, je vais consacrer en gros la moitié de mon temps au cabinet, donc à être en réunion avec mes managers et mes collaborateurs, avec mes clients aussi, évidemment, qui m'appellent encore. Ensemble pour agir, hein, donc le mouvement politique que nous avons... lancé, qui me prend beaucoup de temps, et puis accessoirement mon mandat à la CRCC Paris, qui se termine là en septembre. Donc une grosse journée Stangelin avant 9h, où vraiment je traite beaucoup de sujets, mail évidemment, mais de sujets en général, les sujets techniques que mes collaborateurs m'ont remonté, je les traite à ce moment-là. Et puis le reste de la journée, où j'essaye de jongler en permanence entre les différents sujets. Je suis moins productif, mais je fais beaucoup de relationnel dans la journée, du coup, sur ces différents sujets. Et puis, alors, il y a quand même un truc qui est juste fondamental. Si j'arrive à m'organiser, c'est parce que j'ai une équipe incroyable et j'ai autour de moi des managers super qui sont des jeunes managers. Mais j'ai des managers en expertise comptable. On a un super manager audit. On a une super directrice juridique au cabinet. J'ai également un manager en gestion de patrimoine qui est un jeune mémorialiste extrêmement talentueux. On a un pôle social qui est très bien organisé. Donc, c'est vrai que j'ai une équipe de managers autour de moi et d'associés, évidemment, mais mon quotidien professionnel, et surtout avec mes managers, qui me décharge de beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que pour qu'un sujet arrive sur mon bureau, c'est que vraiment, la réponse n'est pas forcément dans le Lefebvre. C'est que vraiment, ils ont cherché, ils ont essayé de résoudre le problème, ils n'y sont pas arrivés. Et donc, j'ai ce filtre XXL de gens hyper compétents et hyper bons managers aussi, puisque c'est eux qui gèrent les équipes. Maintenant, je ne m'occupe plus tout à fait du management et de la RH au cabinet, qui est très performant. C'est ma garde rapprochée. Je l'ai construite au fil des ans. Hein. À force de grossir, je me suis vraiment entouré. Ils commencent tous à avoir une belle ancienneté. Et c'est aussi grâce à eux, hein, j'en ai parfaitement conscience, c'est grâce à eux que je peux me consacrer autant à la politique, parce que, encore une fois, les sujets qui m'arrivent au cabinet, c'est les vrais gros problèmes à gérer.
On peut dire, en gros, c'est priorité délégation ?
Oui, tout à fait. La réussite, c'est la délégation. C'est-à-dire que...
La confiance aussi.
Et la confiance. Il est vrai que mon bras droit, donc qui est une fille en l'occurrence, je ne sais pas si ça se dit ma bras droit, donc on va dire mon bras droit, est une fille hyper talentueuse avec qui j'ai une relation extrêmement forte. On est en très très grande confiance. Pour l'anecdote, c'était ma chef de mission quand j'ai commencé comme alternant. C'est même elle qui m'a formé. Depuis je suis passé au-dessus, donc ça fait maintenant 14 ans qu'on se connaît. Alors même si évidemment il y a eu une interruption, parce que quand Elle n'est pas venue chez Stangelin de suite, mais on a une relation extrêmement forte. Et donc, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Je suis en confiance aveugle avec elle. Je pense que c'est réciproque. Et c'est un confort énorme. Je gagne beaucoup, beaucoup de temps grâce à cette relation.
La nouvelle génération voudrait faire comme toi. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, justement, pour suivre ton parcours ?
Eh bien, je leur dirais qu'il ne faut pas nécessairement s'inspirer de mon parcours, parce que il faut être sûr que tu vas avoir envie, tu vas aimer te consacrer à un cabinet, je dirais, traditionnel. Voilà. Parce que mon cabinet est un cabinet traditionnel. On fait beaucoup de missions de présentation, de comptabilité, et on est tellement absorbé par ce métier traditionnel, que moi j'apprécie beaucoup, qu'on n'a pas forcément beaucoup développé les missions de conseil, les missions d'audit contractuel. On n'a pas beaucoup développé ça parce qu'on a été absorbé par le flux de ce que nous on appelle la production. Parfois, j'ai des jeunes confrères qui me disent « mais j'aimerais bien acheter pour avoir une petite clientèle récurrente en plus de mon activité d'audit ou en plus de mon activité de conseil ». Moi, je leur dis « soyez prudents » parce qu'à partir du moment où tu mets le doigt dans ce milieu, dans ce métier de la production comptable, de la mission de présentation, de la paye, du secrétariat juridique, ça va te bouffer. Alors si t'aimes ça, tant mieux, mais t'auras du mal à gérer à la fois des missions de production, un cabinet de production, et des missions d'audit et de conseil un peu ponctuels, exceptionnels. Je pense qu'il est très 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 dur de concilier une activité ponctuelle de mission exceptionnelle, que ce soit en audit ou en conseil, et une mission de production traditionnelle. Je pense que ma vision aujourd'hui, après 8 ans, c'est que c'est quasi incompatible. C'est-à-dire que soit tu te spécialises dans l'un, soit tu te spécialises dans l'autre, mais vouloir faire un peu des deux, moi, là-dessus, je suis toujours très réticent, et donc, souvent, j'ai les jeunes confrères et consoeurs qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire qui ont développé une petite activité de manager de transition, d'auditeur, de CAC, et qui voudraient, pour se rassurer, racheter un cabinet d'expertise comptable, pour se dire, j'aurai un peu de récurrent. Je sais, c'est vrai que c'est ça l'avantage, c'est que tu sais combien tu vas facturer dans l'année, ça sécurise. Mais en fait, je pense que c'est un piège. C'est-à-dire que si tu vas là-dedans, il faut faire que ça, le faire à fond, le faire comme nous, c'est-à-dire que tu lèves des fonds et t'en achètes plein et tu grossis très très vite. Mais se dire, je vais faire un petit peu de ça, en se disant, c'est ma petite roue de secours, non, c'est pas vrai, ça va pas être ta roue de secours, parce qu'en fait, ça va te bouffer et tu vas perdre tout ton développement commercial sur la partie ponctuelle.
Moi, j'ai une définition de l'expert comptable, mais j'aimerais connaître la tienne. Pour toi, c'est quoi l'archétype de l'expert comptable ? Comment tu le vois, l'expert comptable parfait aujourd'hui ?
C'est une question hyper intéressante qu'on se pose d'ailleurs chez Ensemble pour Agir, parce qu'on se rend compte que les profils se diversifient de plus en plus. Aujourd'hui, tu as des professionnels qui ne font plus de comptabilité, qui se consacrent soit à l'audit, soit au conseil, soit à la durabilité, à la gestion de patrimoine, à la transaction, enfin... On a de plus en plus d'experts comptables qui ne font plus du tout de comptabilité, en tout cas directement ou personnellement. Donc, c'est une vraie question. C'est, au fond, cette diversification des profils, que moi je trouve plutôt positive pour la profession, doit nous pousser à s'interroger sur c'est quoi un expert comptable, c'est quoi la définition d'un expert comptable. Alors, je pense que Au fond, ce qui nous unit, c'est deux choses. Un, c'est notre déontologie, nos règles, notre indépendance. Voilà, c'est-à-dire que quand tu fais de la gestion de patrimoine, ce qui est par exemple un peu mon cas, bah, tu appliques le code de déontologie de l'ordre des experts comptables. Voilà, tu n'as pas les mêmes pratiques commerciales, les mêmes modes de rémunération, le même business model que le gestionnaire de patrimoine, entre guillemets, classique ou en tout cas non expert comptable. Donc on a cette déontologie, cette indépendance, cette tutelle aussi qu'on a de Bercy, ces règles, ces contrôles qui sont communs à toutes nos activités, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le diplôme unique. Et chez Ensemble pour Agir, on est hyper attaché à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu sois auditeur chez un big ou petit expert comptable parisien qui fait de la TVA, ben, le seul point commun que vous avez, c'est votre diplôme. C'est le DEC, le fameux DEC. Alors, il y a le CAFCAC, enfin, qui reste aujourd'hui une exception, donc je la mets de côté, mais... aujourd'hui, l'auditeur qui certifie les comptes de boîte cotée chez X Big et le petit expert comptable qui fait de la TVA, ben, ils ont le même DEC, ils ont fait le même stage expertise comptable, ils ont eu le même cursus initiatique. Et donc ça, on est hyper attaché à ça, ce diplôme unique qui crée quelque part une espèce de culture commune aussi, où on a appris les mêmes matières, les mêmes sujets. Et ben, je pense que ça, c'est un ciment juste indispensable. Alors, je le dis parce que, sans faire de politique, mais tout le monde ne partage pas cet avis. Certains pensent qu'aujourd'hui, il faudrait séparer le commissariat aux comptes de l'expertise comptable, en disant qu'il faudrait faire deux diplômes différents. Voilà. Mais vraiment, nous, on a beau réfléchir et tourner le sujet dans tous les sens, on se dit que non, si on fait ça, on va briser la profession définitivement. Il y aura deux métiers différents, deux professions très différentes, et donc on reste attaché. Donc, la déontologie, elle est hyper importante, l'indépendance, la conscience, la compétence, c'est hyper important. Et ça, il faut qu'on le maintienne, il faut qu'on le maintienne, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les professions. Et puis évidemment, ce diplôme unique, qui est notre ciment, qui nous relie tous les uns aux autres, même si franchement, parfois au quotidien, tu as celui qui fait des DAS 2 et celui qui fait de l'IFRS, IAS 19-18, je ne sais même plus les numéros. Eh ben ouais, ben même si ce n'est pas la même chose, eh ben ils ont le même diplôme et la même culture.
Si tu veux, on va sur ton futur maintenant. C'est quoi tes projets sur cette année ?
Bah, cette année, donc en tant que président d'Ensemble pour Agir, je vais être très pris par les élections. Hein. Il y a actuellement, on est au mois de septembre, les élections à la compagnie qui vont débuter. Donc on a une grosse campagne à mener puisqu'on ambitionne de conserver la présidence de la CRCC de Paris. Alors je ne suis pas candidat, mais c'est mon ami Camille Boivin qui l'est. Donc ça va être un mois de septembre très politique. Et puis à partir d'octobre, on va rentrer en campagne pour l'ordre. Et alors à titre personnel, non seulement évidemment je vais aider Ensemble pour Agir sur l'élection au niveau du Conseil National de l'Ordre, mais moi-même je suis candidat à la présidence de l'Ordre de Paris en binôme avec Virginie Roitman qui se représente comme tête de liste, et donc moi je suis en binôme avec elle pour partager en cas de victoire le mandat et la présidence sur les 4 ans qui viennent. Donc 6 mois très politiques devant moi avec beaucoup de campagnes, celle de la compagnie, celle de l'Ordre, l'Ordre de Paris, l'Ordre National. Et donc ça, c'est vraiment mon projet à très court terme, ça va être très politique. Après, au niveau du cabinet, on mène actuellement pas mal de projets. Alors, on n'est pas en train de racheter, en tout cas...
La question que j'allais te poser.
Après, à chaque fois que je dis ça, un mois après, je trouve un truc à racheter. Mais pour l'instant, à la date où on se parle, il n'y a pas de cible en vue. Mais on a déjà pas mal de projets internes. On est sur des gros projets de digitalisation du cabinet. On est en train de réfléchir aussi à investir pas mal dans la création d'outils internes, voilà, à peut-être même créer un pôle IT au cabinet. Et puis on a un gros enjeu de durabilité au cabinet parce qu'on a en fait, au niveau de notre activité de commissariat aux comptes, des gros mandats. Alors des mandats plutôt avec des boîtes type ETI qui sont totalement dans le scope de la CSRD. Donc en tant que commissaire aux comptes, on va devoir être en mesure de répondre à cette demande hein, de certification des données extra-financières. J'ai déjà effectué mon visa durabilité en début d'année 2024. Et donc maintenant, il va falloir qu'on forme les équipes, qu'on structure une offre, parce que dès l'année prochaine, on va devoir être en mesure de répondre à nos clients sur ces sujets de durabilité qui sont vraiment tout nouveaux pour nous et donc sur lesquels il y a tout à construire.
Il y a un sacré boulot du coup, mais allons plus loin. On va pousser le scope à 10 ans. T'es où dans 10 ans ?
Eh bien, dans 10 ans, je pense que je serai toujours chez Stangelin. Je ne pense pas qu'il m'ait encore viré. Même si Évidemment, à force de grossir, je suis plus tout à fait majoritaire, mais je pense me maintenir quand même. J'espère, en tout cas, j'espère. Moi, je m'épanouis beaucoup dans mon cabinet, même si j'y suis un peu moins qu'avant, mais j'espère peut-être y être plus. J'espère qu'on aura continué à grossir, qu'on aura développé d'autres métiers, hein, je les ai déjà cités. Et que donc on aura un beau cabinet qui aura toujours cette croissance. Je n'envisage pas de vendre à court terme, je n'ai pas spécialement envie de faire une culbute. Voilà. Alors après, on est ouvert à plein de sujets, évidemment, racheter, pourquoi pas. On sait aujourd'hui qu'il y a un sujet de financiarisation de la profession avec les fonds d'investissement qui arrivent. On s'est interrogé sur l'idée de faire rentrer un fonds dans le cabinet. Pour l'instant, ce n'est pas du tout une volonté de mes associés moi-même, mais ça pourrait évoluer. Voilà, donc je me vois, en disant, vraiment peut-être plus loin, enfin plus éloigné de la politique, en tout cas plus qu'aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup consacré d'énergie et de temps à la politique ces dernières années. Si j'ai la chance de gagner les élections en novembre, bah, j'y vais encore consacrer 4 ans à l'Ordre de Paris. Mais je pense qu'après, il faudra faire place aux jeunes, parce que j'aurai plus 26 ans, enfin je les ai plus aujourd'hui, et puis dans 4 ans, je les aurai plus du tout, j'aurai 38 ans. Donc place aux jeunes, ce sera l'heure pour moi de transmettre mon expérience politique et de laisser la place à d'autres. J'ambitionne pas particulièrement d'autres mandats derrière, en tout cas à date. Voilà, j'ambitionne plutôt de revenir dans mon cabinet, ce que je trouve être plutôt sain. Je pense que, comme dans la politique réelle, je pense qu'il ne faut pas devenir des politiques professionnelles. Moi, j'ai commencé très jeune, hein, la politique institutionnelle. Si je fais ça jusqu'à 62 ans, je vais être taxé d'être vraiment un politicard professionnel, ce que je ne veux pas. Je pense qu'il est bien qu'on garde un pied dans l'exercice du cabinet. Donc, je prévois plutôt de retourner dans mon cabinet et de me mettre en retrait de la politique. Mais mon objectif, sur les 10 ans qui viennent, c'est de transmettre. C'est-à-dire de trouver des gens qui pourront me succéder, nous succéder à Ensemble pour Agir, éventuellement à l'Ordre, si ça devait être le cas, pour pouvoir perpétuer ce que l'on m'a laissé, parce que moi j'ai récupéré un héritage, hein, de mes prédécesseurs, et pouvoir perpétuer cet héritage.
Pour finir l'interview, je te propose de jouer au jeu Confession intime. Le but est que les auditeurs apprennent à mieux te connaître. Je vais te poser des questions et je voudrais que tu me répondes juste par plus ou moins.
Ok.
Au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine ?
Moins.
C'est bien ça, c'est le premier qui me le dit.
Alors, si on considère que ce que je fais chez Ensemble pour Agir et la CRCC n'est pas du travail...
Si, je le mets dedans.
Alors peut-être plus quand même.
Est-ce que tu as plus ou moins de 10 amis proches ?
Moins.
Au niveau du sommeil, tu dors plus ou moins de 8 heures par nuit ?
Moins.
Combien ? 4 heures, 5 heures ?
Ouais, 5 heures.
C'est bien, ouais.
Ouais, c'est... il faut s'habituer, voilà.
Et puis, tu es papa, alors je ne sais pas si tu es jeune papa, du coup.
Je suis papa, j'ai une fille de 2 ans et j'en ai une deuxième qui devrait arriver dans les jours à venir.
Quand on ne dort pas, ça, c'est pas mal ça. Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines de vacances par an ?
Moins.
Ah, et la dernière, retraite. Tu prévois de prendre la retraite à plus ou moins de 65 ans ?
Plus de 65 ans.
Mais tu la vois comme une étape où tu vas vite changer ou... Tu voudras quand même faire des choses encore un peu dans la profession.
Moi, je pense que je continuerai à me consacrer à des engagements, d'ailleurs semi-professionnels. Alors, encore une fois, je pense que la politique institutionnelle sera derrière moi, mais des engagements associatifs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai d'autres mandats ailleurs dans d'autres associations qui n'ont rien à voir avec la profession. Et donc, je me vois encore très actif dans ce milieu-là. Et puis, tant qu'encore une fois, chez Stangenant, on voudra de moi, même à 80 ans, si on veut encore de moi, je serai là. Jusqu'au jour où on me mettra dehors, j'essaierai de ne pas m'accrocher trop. Et voilà. Mais différemment, évidemment, je n'aurai plus tout à fait le même exercice professionnel, mais je me vois continuer assez longtemps comme expert comptable.
Tu n'auras peut-être plus la casquette du petit jeune, mais peut-être du petit vieux.
Ouais, tant que ce n'est pas le vieux con, ça va.
En tout cas, je te remercie.
Merci à toi.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.